Continuer notre étude sur ce verset un peu compliqué. Il y a quelques-uns qui nous rejoignent, on va quand même faire un rappel. En fait, Matthieu chapitre 18, on va juste relire le... Je ne vais pas refaire toute la prédication de la semaine dernière, je vais quand même rappeler quelques petits points. Matthieu chapitre 18, donc il y a un verset qui je pense a fait couler beaucoup d'encre, un verset qui est utilisé plus ou moins abusivement par certains. Et ce verset-là, il est assez connu. Matthieu 18, verset 18, donc on peut lire ce verset qui dit « Je vous le dis », c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors c'est vraiment un verset qui renferme à lui seul plusieurs complexités. La première complexité qu'on avait relevée, c'est l'expression même « lié et délié ». Je mets bien l'accent sur le fait que c'est une expression qui était utilisée au temps des Juifs pour signifier quelque chose qui était autorisé ou quelque chose qui était interdit, défendu. Mais je veux revenir un peu sur cette notion. C'est vrai que je n'avais pas détaillé ça la semaine dernière, mais c'est une expression. Ça veut dire qu'une expression, ce qui est important dans l'expression, c'est qu'à la fois c'est une image, c'est une habitude de langage, mais ce n'est pas forcément le choix des mots de cette expression qui a de l'importance. Par exemple, est-ce que vous connaissez une expression qui veut dire « il pleut abondamment » ?
Il pleut comme vache qui pisse.
Il pleut comme vache qui pisse. Ok ? Un bon français, il sait ce que ça veut dire, ça. Pourtant, il ne faut pas chercher une signification derrière une vache ou quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand on dit « il pleut des cordes », on sait bien que ce n'est pas des cordes. Alors après, chaque expression a une explication. Les Polonais vont dire qu'il pleut des grenouilles. Ok ? Ce que l'on doit comprendre dans une expression, comme dans celle-ci, « lié » et « délié », ce n'est pas forcément le sens de qu'est-ce que lié et qu'est-ce que délié, mais on doit réaliser que c'est une expression qui est dans le sens de ce qui est accordé et de ce qui est interdit. Et donc dans cette expression, ce qui est important, ce n'est pas de fixer notre attention sur l'étymologie du mot, mais il faut comprendre que c'est une expression. D'accord ? Quand on dit à nos enfants « Oh, il pleut des cordes », bien sûr, comme ils sont des enfants, ils vont s'attendre à voir des cordes tomber. Mais après, on dit, non, en fait, c'est pour dire qu'il pleut beaucoup. Mais c'est ça. Et il y a peu de parents qui vont expliquer d'où vient cette expression, d'ailleurs. Ah, et pourquoi ?
Parce qu'ils savent peut-être pas.
Peut-être qu'ils savent pas, mais tout simplement, et ce sera la petite anecdote d'aujourd'hui, c'est que les gouttes sont tellement rapprochées les unes des autres qu'on a l'impression que ça fait des gouttes. Voilà. Et pour la petite anecdote... Il y a une expression qui dit « il pleut des grenouilles », c'est une expression polonaise. Et en fait, c'est parce que tu entends sous certaines régions de lacs, il y a des siphons, enfin des sortes de petites tornades autour des étangs et des lacs. Et donc les grenouilles sont parties en l'air et puis après elles retombent. Et donc c'est une expression. Voilà, donc il y a toujours une explication quand même aux choses, mais voilà. Mais aux enfants, on ne leur explique pas forcément l'explication, mais c'est le sens qui importe. Et là, on est vraiment... Une autre difficulté dans cette expression, qui est importante à comprendre, c'est que bien souvent, le verbe est souvent mal traduit. Hein, on avait déjà vu ça. En fait, nous, quand il est traduit en second, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, en fait, étymologiquement, et certaines traductions le traduisent bien, hein, c'est tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. Donc ça, c'est déjà un point qui est quand même capital, parce que souvent, parmi les gens qui abusent de ce verset-là, ils pensent qu'ils ont là un pouvoir, décisionnel sur les choses, alors que pas du tout. Christ est le chef de l'Église. Dieu est celui qui a tout pouvoir. C'est lui qui décide des choses. Et nous ne sommes que des représentants, que sa main, que des ambassadeurs, que des acteurs de ce que Dieu décide. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital à comprendre. Il y a, et nous étions surtout dans Matthieu 18, je ne vais pas relire le texte, mais ça fait partie du contexte qui rentre dans ce verset un peu compliqué. En plus de ces expressions, en plus du rendu pas toujours très net du temps des verbes, il y a aussi une complexité avec l'emploi des symboles. Vous vous rappelez, c'est Jésus qui dit à Pierre, je te donne les clés. Ah bon, il y a des clés maintenant. C'est un symbole. Symbole de quoi ? Symbole de la délégation de pouvoir. Les clés dans la Bible, ça représente pas seulement le pouvoir, mais la délégation de pouvoir. Ça, si on ne le sait pas, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Il y a un autre symbole dans ce passage-là, lorsque Jésus dit Céphas, maintenant tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, là, c'est le symbole de la pierre. Dans la Bible, quand il est parlé de la pierre, c'est la notion de la fondation. Nous, aujourd'hui, on coule du béton pour fabriquer nos pavillons, mais à l'époque, les gens, ils posaient des grosses pierres. Et sur les grosses pierres, alors, ils bâtissaient les maisons, le temple, etc. Donc Jésus, quand il parle de cette pierre, sur cette pierre je bâtirai, il est en train d'utiliser le symbole de la fondation, de quelque chose de solide. Et ce n'est pas tout. Parce qu'effectivement, en plus des expressions idiomatiques, en plus du temps des verbes, en plus des symboles, Jésus ne se contente pas de ça. En plus, il fait des jeux de mots. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. En fait, c'est un jeu de mots. Il est en train de jouer avec le sens du mot du vrai prénom de Pierre qui était Céphas. Et c'est à partir de là que le prénom de Céphas va être remplacé par celui de Pierre. Avant, personne ne connaît Pierre. Pierre ne s'appelle pas Pierre. L'apôtre Pierre s'appelle Simon. Il s'appelle Céphas. Et c'est à partir de ce moment-là que l'apôtre va se faire appeler Pierre, comme l'apôtre Paul. Paul va se faire appeler Paul plus tard, ultérieurement, mais avant il s'appelait Saül, ou Saul, selon la manière dont on le prononce. Donc il y a un jeu de mots, et la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église, ce n'est pas la personne de Simon, mais c'est la déclaration de la foi que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Et c'est ça la pierre. Donc ça aussi, Jésus fait des jeux de mots. Et l'autre jeu de mots qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 18, c'est quand il parle que rien ne prévaudra, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Donc il parle de portes du séjour des morts. Et après, il va parler de la clé du royaume des cieux. Et donc là, il met vraiment en opposition la porte du séjour des morts, l'enfer. Et après, il va parler à Pierre de clé du royaume des cieux. Et là, il faut comprendre que c'est le paradis, la présence de Dieu. Voilà. Donc déjà, le texte en lui-même renferme toutes ces petites complexités que si on lit rapidement, on croit que là, il y a une sorte de pouvoir qui est donné. Et puis, quel est le cadre, on ne le sait pas. Pour peu qu'effectivement, on se laisse un petit peu hasarder à ces nombreuses prédications qui ne cherchent pas à comprendre vraiment le sens de cette expression, alors il y a de temps en temps un abus. Et le problème, c'est que même un mensonge, même une expression mal utilisée, plus elle est répétée, et plus on finit par croire qu'elle est juste. Et donc, effectivement, il y a de temps en temps une mauvaise interprétation du sens de ce verset, et puis le fait de le répéter comme ça, on finit par lui donner un autre sens que celui que Jésus a derrière la tête. Surtout que, alors on va continuer maintenant, il faut toujours méditer un verset en prenant d'autres versets les plus proches, ceux qui sont similaires, pour revoir dans le cadre, et après des similitudes avec d'autres contextes. Et on avait fait exprès la semaine dernière de lire Matthieu 16. Pourquoi Matthieu 16 ? Parce que c'était la première fois que Jésus employait cette expression. La première fois. Et dans ce cadre-là, c'est à Pierre qu'il va dire je te donne les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras aura déjà été lié, et tout ce que tu déliras aura été déjà délié. » Alors, c'est une forme assez énigmatique, et on comprend, par rapport au contexte de l'époque sur lequel on ne va pas revenir, que prophétiquement, hein, il leur parle bien au futur, Jésus est en train de dire à Pierre, qui a été le seul, ce jour-là, à reconnaître la divinité de Jésus et sa messianité, donc c'est à lui qui va le dire, toi là, l'autorité que tu as, eh ben, elle va te permettre de réouvrir la porte, je vous rappelle que les pharisiens avaient fermé, Luc chapitre 11, et d'annoncer ce message libérateur qui permet aux gens de rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Actes chapitre 2, c'est Pierre qui a pris la parole, et puis après, en Actes chapitre 10, avec Corneille, où là encore, Pierre a été l'instrument pour annoncer le message. Ainsi, le message de l'évangile a été ouvert à tous les gentils, c'est-à-dire les juifs convertis, et après à tous les païens. Donc on voit vraiment que prophétiquement ça s'est passé. Jésus va reprendre cette expression en Matthieu chapitre 18. Et là, vous allez voir que ce n'est plus seulement une expression qu'il utilise seulement à l'égard de Pierre, mais là, il en parle à l'égard de tous ses apôtres. Matthieu chapitre 18, et là, on va lire à partir du verset 15, même méthodologie, on replace le verset dans son contexte, et voilà ce qu'il est écrit. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, alors qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, alors là, je vais faire la bonne traduction directement, aura été lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié dans le ciel. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera jusqu'à sept fois ?» etc. etc. Pourquoi avoir lu tout ça ? Ben un peu pour se rendre compte que le contexte de Matthieu 18, dans lequel est insérée cette fameuse phrase, il est parlé de la discipline dans l'Église. Les versets 15 à 17, il est question de la gestion du péché dans l'Église. Si quelqu'un a péché, ben voilà une méthodologie. Ah bon ? Après, on arrive au verset 18. Mais d'ailleurs, on se rappelle que le sens de cette expression, c'est permettre ou défendre. C'est une question. Déjà à l'époque, cette expression avait un sens de discipline, d'organisation, de gestion. Pourquoi le verset 19 ? Alors je vous l'ai dit que si deux ou trois s'accordent sur la terre, parce que Dieu nous rappelle que pour avoir une connexion, un haut débit, une bonne connexion avec le Seigneur, il faut aussi qu'on ait un bon rapport horizontal. C'est pour ça qu'il y a cette succession qui dit d'abord vous réglez le péché, vous voyez ça entre vous, et d'ailleurs, comment pourriez-vous être en harmonie, associé, coordonné, si vous pouvez, comment voulez-vous être accordé, effectivement, c'est le terme qui est, si déjà, humainement et spirituellement, il y a du péché au milieu de vous et qu'il y a des choses encore à régler. Et donc, Pierre continue, il dit, mais il a bien compris que l'enseignement de Jésus, c'était vraiment sur la gestion du péché, parce que lui-même va après poser une question pratique. Oui, mais dans le cas où la personne, ça fait sept fois déjà qu'elle a péché, qu'est-ce que je dois faire ? Donc vous voyez bien que dans la logique de Pierre, dans l'explication de ce contexte-là, c'est véritablement la question de la gestion du péché. Comme quelle discipline adopter dans l'Église ? En fait, il faut vraiment comprendre donc là, que l'expression là, lier et délier, retrouve là tout son sens culturel de l'époque. Et en fait, Jésus est en train là, maintenant, de donner à ses disciples leur deuxième responsabilité, celle de la discipline de l'Église. Parce qu'il faut se rappeler, nous on est en 2015, 2016, bientôt 2017, les années ont passé, on a des milliers d'années d'expérience de gestion d'Église. Mais rappelez-vous de la mission des 12 apôtres. La première mission, c'était d'annoncer l'Évangile, aller de par le monde, c'était leur mission. Et c'est exactement ce qu'il leur avait dit avec le premier pouvoir qu'il avait. Allez annoncer l'Évangile. Là où vous annoncerez l'Évangile, vous pourrez donner l'occasion aux autres d'être sauvés. Et si vous annoncez que les gens refusent, alors la porte du séjour des cieux sera fermée. Mais vous aurez été l'instrument, vous aurez été la clé pour ces gens pour entrer dans le royaume des cieux. Et la deuxième mission des apôtres, c'est de fonder l'Église. Bien sûr, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Mais la fondation, sur terre, visible, elle passe par les apôtres. Et ça nous est rappelé en Apocalypse, chapitre 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc il faut vraiment se rappeler que les 12 apôtres que Jésus a formés pendant 3 ans, ils avaient cette double responsabilité, à la fois d'annoncer l'Évangile à toutes les nations et en même temps de donner les bases de fondation pour l'Église. En Matthieu 16, on l'a lu, en fait, il leur délègue les conditions du salut, la foi en Jésus-Christ, et en Matthieu 18, il leur délègue la responsabilité d'établir les repères, les normes, la discipline dans l'Église pour demeurer dans le salut. Bon, quelques exemples. Et bien ça, on le voit quand on continue la lecture, en fait. Quand on voit, par exemple, c'est un peu schématique ce que je vais dire là, mais en fait, le reste du Nouveau Testament, c'est quoi? C'est le livre des Actes des Apôtres, et là, qu'est-ce qu'on voit? Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils annoncent. Et puis quand on continue la lecture, on tombe sur quoi? Sur les épîtres. Et qu'est-ce que sont que les épîtres? Ben une succession de repères, de mise en garde. Et c'est là qu'il établit des limites, justement. Et c'est là qu'on retrouve un peu cette notion Paul accorde, il autorise et des choses qu'il autorise pas. On a un exemple vraiment flagrant, par exemple, en la différence entre acte 8 et acte 15. Acte 8, c'est quoi? C'est le passage où Philippe rencontre cet eunuque, ce ministre éthiopien. Il lui pose une question. Est-ce que tu crois que Jésus est le Messie? Oui, je crois qu'il est le Fils de Dieu. On arrête tout, on le baptise, il reprend sa route, et voilà. Là, il est dans la première mission. On annonce l'Évangile! Allez! Et puis quelques années après, on arrive à acte 15. Et là, tous les pasteurs de l'époque sont obligés de se réunir parce qu'il y a un problème. Il y a du désordre dans l'Église. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Et là, ils décident de voter des lois. Ah bah maintenant, on va dire que dans l'Église, maintenant, il faut même plus manger de viande, il faut plus aller faire les prostituées, il faut plus manger du sang. Et c'est étonnant, non? D'un côté, on les voit, ils baptisent comme ça, on a l'impression que le premier qu'ils rencontrent, ils baptisent une simple confession. Et puis de l'autre côté, ils sont obligés de rattraper un petit peu et de mettre des lois. Pourtant, ici, personne ne s'est fait baptiser avec des lois. Il n'y a pas une règle, pourtant, à l'entrée de l'Église, durement, maintenant, il faut se comporter comme ci, il faut se comporter... Non. Et pourtant, on sent qu'effectivement, pendant cette transition, les apôtres ont dû équilibrer, ils ont dû gérer ce double ministère, ce double service, cette double vocation qu'ils avaient. Pour aller un peu plus loin dans la logique et dans la compréhension des choses, on peut même de temps en temps s'étonner de quelques remarques que Paul peut faire dans les épîtres. il va parler de chrétiens qui sont ivrognes. C'est lui, ça. Il va condamner des chrétiens qui sont en situation d'adultère. Il va condamner des chrétiens qui sont en situation d'inceste. Mais vous vous rendez compte, s'il y avait tout ça au milieu de nous, là ? On dirait, mais le pasteur, il fait pas son boulot. Il a baptisé n'importe qui. Et donc, on voit que, véritablement, l'Église, les apôtres, ont dû, voilà, ils ont tâtonné pour trouver ce double équilibre, à la fois annoncer l'Évangile, proclamer le salut par la foi, et en même temps, mettre des repères et établir une discipline dans l'Église. Donc voilà, là on retrouve un peu plus l'expression, le sens de l'expression lier et délier, au sens d'accorder, de tolérer et aussi d'interdire, de limiter. On retrouve ça, hein, toute parole de Dieu est utile pour exhorter, pour reprendre, exhorter, exactement, dans la justice. Donc c'est effectivement tout le cadre de la parole de Dieu et de la mission des apôtres. Rappelons-nous une chose aussi. Et ça, c'est en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, et on terminera sur cette pensée, mais rappelons-nous que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire, comme si Dieu exhortait par nous. Nous sommes des ambassadeurs. Alors nous sommes, oh, mais non, quand même pas, moi je suis rien du tout. Si ! Et c'est pour ça que lorsque nous lisons là, ce pouvoir que Dieu a accordé d'abordement, que Jésus a accordé premièrement à Pierre, puis après aux disciples, nous l'avons aussi. Parce que lorsque nous annonçons le message du salut aux gens, lorsque nous disons aux hommes, repens-toi, tu seras pardonné de tes péchés et le Seigneur te sauvera, nous sommes en train d'annoncer quelque chose de puissant. Nous sommes, comme Pierre, nous sommes en train de leur donner une clé d'ouvrir les portes du ciel. Et quand quelqu'un nous dit, mais est-ce que le Seigneur peut pardonner mes péchés, vous avez l'autorité de Christ pour dire, oui, tes péchés sont pardonnés. Si tu te confesses de tout ton cœur, je peux te dire que ce soir tu seras sauvé. Non pas que nous sommes des prêtres et que nous accordons la bénédiction, le pardon et le ciel. Bien sûr que non, ça c'est du mensonge. Mais spirituellement, par le message du fait que nous sommes ambassadeurs, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Non pas que nous sommes Dieu. Mais un ambassadeur, c'est pas non plus le président de l'État. Mais il représente cet État. Il représente les lois de cet État. Et nous sommes... Et nous devons avoir confiance lorsque nous annonçons l'Évangile aux gens. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas seulement là à informer les gens, mais nous devons vraiment leur dire, mais repens-toi. Si tu te repens et que tu confesses tes péchés au Seigneur, je te le dis, tu seras sauvé, le Seigneur te sera sauvé. Oui, tu auras la possibilité d'avoir une vie changée. Parce que non pas parce que c'est que de la formation, mais parce que nous sommes dans une position d'ambassadeur, de proclamateur, et on affirme, non pas ce qu'on aimerait envie d'annoncer, mais ce que le Seigneur lui-même a annoncé, et qu'il a déjà accordé à plusieurs. Et de la même manière, que lorsque nous prévenons un frère, une sœur, ou un païen, et que nous lui informons que le salaire du péché, c'est la mort, que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur, que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et les hommes, ben nous sommes aussi là en tant qu'ambassadeurs. Non pas que nous voulons fermer la porte des gens, mais nous leur signifions que leur vie n'est pas en règle pour rentrer. Essayez-vous d'aller dans un pays étranger juste avec un papier que vous aurez choisi comme ça. Mais non, ils vont dire non, pour rentrer dans mon pays, il faut apporter ça, 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 et tel justificatif. Et si vous apportez que le quart des papiers, ou que la moitié, ou même que 90% des papiers, et qu'il vous manque un seul papier, l'ambassadeur va vous dire, rentrez chez vous. Oh oui, mais je pars la semaine prochaine. Je ne veux pas savoir. Il me faut tous les papiers, c'est tout. Et c'est pareil, lorsque nous exhortons, lorsque nous établissons une discipline dans l'Église, qui est celui de la sanctification, de la vérité, de la justice, de l'amour, du pardon, nous faisons office d'ambassadeur. Parce que nous rappelons aux chrétiens, aux non-chrétiens, que le ciel est ouvert, mais que la condition de ce salut passe également par une manière de vivre, une condition de vie, une attestation de la grâce de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu qui s'exprime également par nos vies. Amen. Et puis nous continuerons toujours avec cette expression, avec la semaine prochaine, en Jean chapitre 20, avec un élément supplémentaire. Il y a effectivement, comme nous l'avons dit, nous avons reçu le pouvoir d'annoncer le message de l'Évangile et de dire aux gens « vous êtes sauvés ». Nous avons le devoir, la responsabilité d'établir une discipline liée et déliée. C'est la logique d'autoriser ou de défendre, c'est-à-dire la notion de la gestion de la gestion de l'Église. Et nous allons voir un autre élément qui complète encore cette pensée-là la semaine prochaine. Et nous aurons vraiment fait le tour de la question sur cette expression avec effectivement d'autres illustrations bibliques.